Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Voilà, mesdames et messieurs, le moment est venu de traiter plus globalement de ce koinon akaion ou akeon, dont l'activité, l'influence, ou du moins l'existence, a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans les leçons précédentes. À propos de Montesquieu, d'abord, que l'on a pu s'étonner de voir si discret sur cette république fédérative, en quelque sorte détrônée chez lui par la plus modeste confédération des Lyciens. Il en était également question à propos de l'abbé aussi, puisque les deux koinas, de part et d'autre du golfe de Corinthe, ont entretenu des relations multiples, souvent conflictuelles, certes, mais pas toujours. On en a parlé enfin, pas plus tard que la semaine dernière, à propos du koinon ton ionon, cette vénérable association de 12 cités qui se prétendait originaire de l'Achaïe, comme l'a fait voir l'épisode de l'ambassade conduite par les Ioniens à la veille du tremblement de terre de 373, dont la cause la plus communément admise dans l'Antiquité était le mauvais accueil fait à leur demande de prendre modèle sur le sanctuaire de Poséidon à Élikè, en Achaïe, pour restaurer le fameux Panionion du cap Mycale, consacré à ce même Poséidon Helikonios. Ou plus précisément, ainsi qu'il ressort de recherches archéologiques tout à fait récentes, pour le reconstruire en un autre emplacement. Si le koinon akaion doit être regardé sans conteste comme le plus important de tous les États fédératifs du monde grec, ce qui ne signifie pas d'emblée qu'il puisse être tenu pour le meilleur ni pour le plus heureux. Cela tient d'abord à une raison parfaitement objective. C'est le rôle joué par cet État, non seulement dans le concert des nations de la Grèce hellénistique, y compris la Macédoine, à partir du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi, on le sait, sur le plan plus largement international, de l'Italie à l'Égypte, et cela aux côtés de la grande puissance conquérante Rome, depuis en tout cas les premières années du IIe siècle. Le koinon akaion et la République romaine ont eu, plusieurs décennies durant, on peut dire, parties liées, ce qui ne veut pas dire non plus que cette confédération ait été en Grèce comme le cheval de Troie des Romains. Les relations entre les deux États ne furent jamais simples, même au plus beau jour de leur alliance. Et l'on sait à quoi devait finalement aboutir un demi-siècle, très exactement après la conclusion du traité de 198, la Societas et l'Amicitia, qui les liaient si fortement. Une catastrophe sans précédent, la mise au pillage, la dissolution, la destruction complète et son rémission en 146 de la grande ville de Corinthe, la dissolution du koinon, la mise sous tutelle par Rome de la plupart des cités du Péloponnèse et du reste de la Grèce. Que les Achéens aient occupé dans l'histoire grecque et dans l'histoire romaine une place majeure est donc un fait avéré. Le contester serait faire preuve d'une forme de négationnisme. Mais au-delà de cette importance objective, il y a bien sûr tout le poids de l'œuvre de Polybe. Achéen lui-même, témoin et acteur de la politique achéenne, à un moment crucial de l'histoire de cet État. Cela fait que le koinon akaion est de toutes les confédérations antiques la mieux connue, grâce au maître-livre d'un historien pénétrant qui réunit en sa personne tous les atouts imaginables. Il est né, si l'on peut dire, dans le sérail, issu qu'il était d'une famille de notables, ayant entretenu les liens les plus étroits avec les deux figures emblématiques de l'État achéen. Aratos de Sicyone d'abord, espèce de héros fondateur, décédé certes environ 5 ans avant la naissance de Polybe, vers 208, mais fréquenté par lui d'une certaine façon à travers les mémoires qu'Aratos avait laissées. Puis l'autre personnage, plus proche encore, parce que son compatriote au sens étroit et son maître à penser, Philopémène de Mégalépolis, la grande cité du sud de l'Arcadie. Ça n'apparaît pas sur cette carte. personnage qu'il put effectivement connaître et admirer dans sa jeunesse. Enfin, un troisième homme, Lycortas, son propre père, figure de proue, lui aussi, de la politique achéenne au début du IIe siècle. Très vite, Polybe lui-même a marché sur les traces de ces grands hommes, ayant atteint la trentaine à l'époque où l'Achaïe, alliée de Rome donc depuis 198, est à nouveau entraîné dans la guerre contre la Macédoine. Il gravit aisément les marches du pouvoir au sein des instances fédérales. Est élu hipparque, commandant en chef de la cavalerie en 169, ce qui prouve aussi qu'il n'a pas négligé jusque-là le métier des armes. Mais la victoire du consul Polémile sur le roi Persée à Pydna l'année suivante marque la fin brutale de sa brillante carrière politico-militaire, en lui ouvrant en même temps des perspectives totalement inattendues. Faisant partie, on le sait, des otages livrés aux Romains par les Achéens, il séjourne à Rome, plus de 15 ans, il fréquente les membres de l'aristocratie sénatoriale, entreprend, ou d'abord essaye, de percer, comme de l'intérieur, progressivement les secrets de la victoire romaine, et entreprend vers 160 de faire l'histoire de Rome, ou plutôt de la conquête si rapide, à peine plus d'un demi-siècle, du monde méditerranéen par Rome, du début de la Seconde Guerre punique, vers 220, jusqu'à la fin de la Troisième Guerre de Macédoine, en 168. Désormais, pendant des années d'enquête et de rédaction, il élabore sans faiblir cette grandiose fresque historique, la prolonge même jusqu'à la date fatidique de 146, si cruelle pour les Achéens. Après l'abaissement de sa patrie, il est un personnage clé dans le processus de réconciliation entre vainqueurs et vaincus. Dans cette ultime phase de sa carrière, sur laquelle on reviendra la semaine prochaine, son activité en Grèce lui assure la gratitude de ses compatriotes et en tout cas une notoriété considérable, comme en témoignent les nombreux monuments dressés, notamment dans les cités d'Arcadie. L'un même a été apparemment retrouvé à Cleitor d'Arcadie. Quand, vers 129, il disparaît au terme d'une vie extraordinairement riche et productive. Il laisse un ouvrage en 40 livres, ou 40 rouleaux, si vous voulez, qui est une somme dans l'historiographie antique et universelle. On mesure par là l'importance exceptionnelle de cette œuvre pour la connaissance de l'histoire et des institutions achéennes. Il est clair que sans Polybe, on aurait un regard assez différent sur les succès comme sur les défaites du Koinon Achaïon. Ce sont ses écrits, son point de vue, ses prises de position passionnées ou alternes avec une égale vivacité la critique et l'éloge, qui ont alimenté depuis la Renaissance la réflexion de mains érudits et philosophes, en priorité certes sur le destin hors norme de la République romaine, mais également sur le remarquable essor de cet État fédéral achéen, patrie de l'historien, qui devient non seulement un objet d'étude, mais accède au statut de modèle politique. Ainsi, en Amérique, à l'époque de la Convention de Philadelphie en 1787, pour établir une nouvelle constitution. On discute de celle de l'Achaïe. Sans l'œuvre de Polybe, Edward Freeman, en 1862, n'aurait à coup sûr pas été en mesure, ni même tenté, de consacrer près des deux tiers de son History of Federal Government à cette seule confédération, classée au premier rang dans l'ordre historique des plus fameux États fédéraux, vous avez cela sous les yeux, dans l'histoire occidentale. Avant les cantons suisses, les Provinces-Unies de Hollande et les États-Unis d'Amérique. L'auteur de la Cité antique, le grand Fustel de Coulanges, publiait vers la même époque un essai novateur sur Polybe ou la Grèce conquise par les Romains. Mais aujourd'hui, quel homme politique, même dans les milieux réputés européanistes, connaît encore l'historien de la Confédération achéenne ? Pour se convaincre de l'étendue de l'ignorance ambiante, Il n'est que de consulter une récente mise au point sur la construction de l'Europe dans la collection Que sais-je, où les deux auteurs, dont je tairai les noms, ont cru pouvoir s'en tirer à bon compte. Sur le chapitre de l'héritage hellénique, en alléguant la démocratie, évidemment, inventée un beau matin à Athènes, où l'individu prétendument mis au centre du monde et de la cité par les philosophes de la Grèce, pas un mot, sur le mouvement fédéraliste hellénistique, sur la confédération des Achéens, ou à défaut sur la belle république fédérative des Lyciens chère à Montesquieu. Bref, aucune mention là de Polybe, qui aurait dû pourtant apparaître comme l'auteur le plus digne d'intérêt, toutes époques confondues, pour l'histoire du fédéralisme. Car cette prodigieuse aventure de l'unification du Péloponnèse, telle que la décrit l'historien achéen, a-t-elle été en son temps moins extraordinaire, moins inouïe même, que l'actuelle construction politique de l'Europe? N'aurait-il pas valu la peine de mettre en exergue la réflexion par laquelle Polybe introduit son fameux excursus du livre 2, texte que vous avez sous les yeux, sur la croissance et l'union inattendue, paradoxos auxessis kai symphronesis, de cette très chétive confédération en ses débuts? Alors que bien des tentatives avaient été faites dans le passé, écrit-il, pour unifier les intérêts du Péloponnèse. Amusez-vous, si vous le voulez, à remplacer chaque fois Péloponnèse par Europe. Et que personne n'y était parvenu, poursuit-il toujours, parce que chacun travaillait moins pour la liberté commune, koine eleuteria, que pour sa propre domination, sphetera dynasteia. Cette idée a fait à notre époque, c'est toujours Polybe qui parle, cette idée a fait à notre époque tant de progrès et reçu un tel achèvement que les Achéens n'ont pas seulement abouti à une communauté politique fondée sur l'alliance et l'amitié, mais encore qu'ils possèdent la même législation, à la kai nomois krestai tois autois, les mêmes poids et mesures, la même monnaie, c'est dans le texte, kai nomisma, et aussi des magistrats, un conseil, des tribunaux en commun, arcousi, bouleutais, dicastais, tois, autois. Et qu'en un mot, le Péloponnèse, presque tout entier, ne s'écarte de l'organisation propre à une seule cité que parce que ses habitants ne disposent pas d'une seule et même enceinte, mais pour tout le reste, tout le monde, au sein de la Confédération et dans les diverses cités, possède des droits égaux et semblables. Bien sûr, ce fameux texte doit être manié avec précaution, car il n'est visiblement pas exempt de présupposés idéologiques, d'exagérations plus ou moins conscientes. Il y a un risque même pour les historiens chevronnés à le prendre tout à fait au pied de la lettre, en prétendant en tirer des conclusions précises sur la nature même du koinon achaïon. Mon excellent collègue de Genève, le professeur Adalberto Giovannini, dont je mentionnerai tout à l'heure une contribution qui me paraît fort importante et même décisive à l'histoire des institutions achéennes, fait grand cas de ce passage du livre 2 pour soutenir une théorie générale qu'il avait exposée dès sa thèse de 1971 sur « Die Natur und die Anfänge, la nature et les débuts des confédérations grecques » et qu'il a reprise dans un tout récent manuel sur les relations entre cités grecques. À savoir, comme je crois l'avoir indiqué d'un mot dans ma première leçon, que le koinon achaïon ne serait pas, malgré l'apparence, un État fédéral au sens moderne et strict du terme, mais en réalité un État unitaire, justement, une sorte de grande cité, puisque Polybe dit du Péloponnèse, après son unification presque totale, skedon ten sumpasan peloponneson, qu'il ne se différencie que par une seule chose, katholou de tuto mono dialatein, c'est un infinitif qui a une valeur consécutive, de la constitution d'une cité unique, tout me, mias, poleos, diatessin, ekain. Littéralement, donc, du fait de n'avoir pas l'organisation d'une seule cité. Cette unique différence étant que ses habitants ne disposent pas de la même enceinte défensive pour les abriter. Toi, me, ton, auton, peribolon, uparkain, tois, katekusin, auten. En croire Polybe, donc, le Péloponnèse unifié au sein du koinon achaïon ne serait qu'une très grande polis. La seule différence avec une cité ordinaire étant d'ordre en quelque sorte démographique et topographique, tous les habitants d'un ensemble aussi vaste ne pouvant évidemment loger, même temporairement, ainsi en cas d'attaque, à l'intérieur d'une seule enceinte. Différence somme toute mineure à première vue, puisque dans les grandes polis aussi, à commencer par Athènes, la population ne pouvait guère, sinon très théoriquement, être réunie tout entière dans les murailles de la ville. Le problème, c'est de déterminer quelle est, dans cette présentation très synthétique du phénomène achéen, la part de l'idéal, du programme et de la volonté politique, en un mot de l'idéologie, et quelle est la part, disons, de la réalité institutionnelle, du fonctionnement au quotidien des divers organes de l'État, c'est-à-dire la répartition notamment des compétences entre les autorités fédérales et les autorités municipales. Car même dans ce texte d'inspiration fortement unitariste, Polybe ne songe évidemment pas à nier l'existence des cités qui constituent le koinon, puisque, précise-t-il, si l'égalité est garantie à tous les Achéens, ce n'est pas seulement en commun, koiné, que s'exerce cette liberté, mais aussi, d'abord, faudrait-il dire, dans chacune des cités, kata poleis. Par ailleurs, se pose bien sûr la question de savoir si la définition de Polybe vaut pour toutes les époques de l'histoire achéenne ou seulement pour la phase finale, ultime, contemporaine. Mais contemporaine de quoi ? Autrement dit, quand on essaie de définir la nature d'un État qui n'a cessé de se transformer ou du moins de modifier ses frontières, ça c'est sûr. La dimension temporelle ne saurait être totalement ignorée ou évacuée, car on ne peut exclure a priori l'idée d'une évolution, voire d'une révolution dans le fonctionnement des institutions depuis l'époque où la Confédération achéenne se réduisait à 12 modestes cités de l'Achaïe, là au nord du Péloponnèse. Au surplus, Polybe lui-même signale au moins une réforme de la magistrature fédérale survenu dès 255. Un demi-siècle plus tard, survint une autre innovation assurée concernant le lieu des réunions, synodoi, on y reviendra. D'autres réformes encore ont été supposées, de façon plus ou moins justifiée, par des savants tels que Aimar, Larsen, plus récemment Corsten. Il faut donc examiner un instant les choses sous l'angle chronologique. C'est à Rome, rappelons-le, durant son long séjour forcé, mais non dépourvu d'intérêt ni même de charme, que Polybe, vers 160, a dû rédiger ce livre 2, qui fait encore partie de sa longue introduction de la pro-kataskeiai, comme il dit, de son ouvrage. Bien entendu, le koinon achaïon est à cette date une réalité politique encore bien vivante, toujours importante, et même relativement prospère. Mais ce n'est déjà plus tout à fait l'État dont Polybe était si fier, qui traitait d'égal à égal avec les Romains. C'est une ligue sous protectorat, désormais, et comme muselée, car les otages achéens sont toujours retenus en Italie, et Polybe ne le sait que trop. L'historien ou futur historien est d'ailleurs coupé de la Grèce. Il ignore ce qui s'y passe exactement, ne recevant de nouvelles de sa patrie qu'à travers le filtre de ses protecteurs romains ou alors par des Grecs de passage, des ambassadeurs qui viennent consulter cet homme dont on sait qu'il est au courant des affaires. C'est ainsi qu'en 164, il est informé que le Sénat se préoccupe d'un conflit territorial entre Lacédémone et Mégalépolis, sa propre cité, les deux, en principe, à l'intérieur de la Confédération. On constate donc qu'à cette date, la Confédération est en butte à de sérieuses tensions entre deux de ses membres les plus importants. Si l'œuvre de Polybe était mieux conservée, on en saurait sans doute davantage sur le rôle joué, en l'occurrence, par les autorités fédérales, mais le seul fait que le Sénat ait été appelé à trancher le différend révèle à tout le moins une carence, ou témoigne, si l'on préfère regarder les choses positivement, d'une autonomie assez considérable des cités au sein de l'organisation commune, puisque chacune délègue au Sénat, ou députe au Sénat. Quand donc Polybe évoque au livre 2, avec la conviction et la fierté que l'on a vue, l'excellence du koinon achaïon, soulignant son harmonieux développement, ce n'est sans doute pas prioritairement à l'époque contemporaine qu'il doit se référer. Il regarde bien plutôt vers le passé, vers ce qu'il a personnellement vécu avant 167, ou même vers un passé plus lointain. C'est d'ailleurs ce qu'il indique, on ne peut plus clairement, dans les chapitres qui suivent, ce passage que nous avons lu ensemble, en effet, ayant montré à quel degré d'insignifiance politique les Achéens étaient tombés à l'époque d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle, et de ses successeurs, combien leur situation resta médiocre, même après qu'un embryon de koinon eût été constitué vers 280 avec l'union de quelques cités, quatre cités de l'Achaïe de l'Achaïe occidentale autour de la grande ville de Patras, dont M. Rizakis, ici présent, est un spécialiste, notamment. Polybe désigne très précisément les artisans du succès achéen. Ceux qui parvinrent à réaliser l'œuvre admirable que fut l'établissement de la concorde entre les Péloponnésiens, to kaliston ergon, to kaliston ergon. Ten, en apposition, ten ton Péloponnésion homonoian. C'est au chapitre 40 du livre 2. Et de citer d'abord le Sicyonien Aratos, l'initiateur et le guide, on peut le dire, de tout le programme, une espèce d'archégos et kai kategemon, oles epiboles, puis les deux grands hommes de Mégalépolis, Philopémène en premier lieu, le champion et le réalisateur de l'entreprise, agonistes kai telesurgos tes praxeos, et en second lieu, Lycortas, propre père de Polybe, donc, le consolidateur, bebaiotes, avec les hommes de son parti, dont Polybe lui-même ne tarda pas à être, on l'a vu. Par là, ce sont donc trois phases historiques qui sont désignées ou plus ou moins distinguées. La première est celle des succès foudroyants d'Aratos à partir de 251, date de la libération de Sicyone. On va essayer de mettre une carte, oui. Sicyone, donc à l'est de l'Achaïe, en direction de Corinthe, déjà très près de Corinthe, à Disney, pas spécialement. Sicyone est donc la première ville non achéenne à rejoindre l'Ethnos. Et de ce fait, cet événement a marqué un tournant historique de l'histoire péloponnésienne et plus généralement hellénistique. Avec Sicyone, c'est une brillante cité grecque qui adhère à l'association en dépit de son long passé d'indépendance nationale. Il en va de même en 243 avec Corinthe. Karatos, par un coup de force resté fameux dans les annales, réussit à arracher à l'emprise séculaire des Macédoniens. Et puis, c'est le tour de Mégare, encore plus vers l'est, que nous avons évoqué, grande cité, elle aussi, proche d'Athènes. En 235, de nouvelles adhésions se produisent, d'autant plus remarquables qu'elles sont menées par des tyrans qui abdiquent, tels Lydiadas, plus fameux, à Mégalépolis, grande ville d'Arcadie. Son exemple est suivi par des tyrans de la péninsule de l'Argolide, dans toute cette région, et Argos même. Une fois engagé, le processus semble devoir s'étendre de proche en proche jusqu'à l'ouest et au sud de la péninsule. Mais à partir du début des années 220, Aratos et les Achéens connaissent des revers parce qu'ils se heurtent à des États considérables qui ne voient pas d'un bon œil du tout cette extension du koinon achéon. Les Étoliens, sur l'autre rive du golfe de Corinthe, mais qui ont des intérêts très précis sur toute la côte occidentale du Péloponnèse, les Lacédémoniens surtout, la grande république du sud du Péloponnèse, où justement à Lacédémone règne depuis ces années-là un roi réformateur, Cléomène, dont l'idéal politique est très éloigné de la démocratie, si l'on veut, tempérée, un peu bourgeoise, des chefs achéens. Un premier échec de taille, c'est le refus des Athéniens, une fois libérés, avec l'appui d'Aratos, pourtant, de la tutelle macédonienne en 229. Refus, en effet, d'entrer dans le koinon, où Aratos avait cherché d'abord à les intégrer de force. Quel triomphe c'eût été de voir la grande, l'illustre Athènes devenir achéenne. Mais les Athéniens, à qui Polybe ne pardonnera jamais cette rebuffade, préfèrent rester neutres. Tout mouvement unioniste a ses récalcitrants, on le sait. Mais le mobile du refus d'Athènes est bien intéressant pour notre propos. Ce qui inquiétait les dirigeants athéniens, en effet, c'est moins la crainte de voir la cité se fondre dans le vaste ensemble achéen, car il paraît clair que personne n'eût osé exiger d'Athènes, pas plus que des autres grandes cités, qu'elle renonçât à son autonomie sur la plupart des plans. Que, donc, le souci de ne pas indisposer le royaume de Macédoine en choisissant aussi clairement le camp opposé. Je ne crois donc pas que l'on puisse tirer argument des réticences athéniennes pour prétendre que l'autonomie des cités au sein du koinon était incompatible avec les institutions fédérales achéennes, du moins, en tout cas pas à cette époque. Mais pour Aratos, on le sait, le pire était encore à venir, puisque, accumulant les défaites, ou du moins les revers, dans la lutte contre Cléomène de Sparte, il fut contraint, dès 227, de se retourner vers l'ennemi en quelque sorte programmatique de la Ligue achéenne, le roi de Macédoine, Antigone d'Ozon, dont il dut payer, en quelque sorte, la nécessaire alliance au prix très lourd du renoncement, justement, à la clé de Corinthe, hein, l'entrave de Corinthe. Suivi bientôt, on l'a vu dans une précédente leçon, du départ ou de la cession de Mégare aux Béotiens. Cet abandon volontaire, après 20 ans de vie commune, prouve qu'aux yeux des Achéens, aucune adhésion, si importante fût-elle, pour la Confédération, ne pouvait être considérée comme définitive. Il est vrai que la rupture du contrat sympolitique, la sum politeia, c'est un mot que Polybe utilise volontiers pour désigner cette Confédération, cette rupture, lorsqu'elle n'était pas dictée par l'intérêt supérieur de l'État central, comme dans le cas justement de Corinthe, se passait rarement bien. Même autant d'Aratos. Polybe est obligé de le reconnaître, qui montre ce chef charismatique, agissant certes le plus souvent par la persuasion et la raison, peitoi kai logoi, mais obligé aussi parfois de recourir à la force, chapitre 32 du livre 2. Le cas le plus douloureux fut sans conteste celui de Mantinée, la grande cité de l'Arcadie du Nord, qui, une première fois, très tôt, avait abandonné la communauté politique achéenne, ten meta achaion politeian. au profit de la Ligue étolienne, donc passé à l'adversaire, puis était passé dans l'État lacédémonien, de gré ou de force, en 229. Il s'agissait, note Polybe, d'une action volontaire, étellontes, sans contrainte militaire. Dès lors, au nom des principes de liberté qui régissaient leur État fédéral, les Achéens auraient dû laisser les Mantinéens faire ce qu'ils voulaient. Ça, c'était la théorie. Mais la réelle politique, comme on dit, imposait à Aratos une autre conduite, puisque l'on était en état de guerre, donc Mantinée est prise d'assaut, tombe aux mains des Achéens. Polybe tient à faire voir que leur chef, Aratos, eut en cette circonstance une conduite exemplaire, épargnant les personnes et les biens des gens de Mantinée. Mieux, leur assurant la sécurité s'ils vivaient dans l'union politique avec les Achéens. Politeiomenoi meta ton Achaion. Voilà cependant qu'en proie aux divisions, Mantinée se tourne à nouveau vers la Lacédémone et la garnison achéenne y est massacrée. Cette seconde trahison, en 223, est jugée impardonnable. La répression sera sans pitié. Aratos va jusqu'à débaptiser la ville, qui s'appellera désormais Antigonéa, en hommage à l'allié macédonien, le roi Antigone. Un historien contemporain des faits, l'Athénien Philarque, avait brossé un tableau pathétique de cette opération punitive. Polybe, lui, la justifie sans état d'âme. Et il traite Philarque de fief et menteur, d'écrivain égaré qui confond l'écriture de l'histoire avec celle de la tragédie. La pitié de la Grèce, écrit-il, ulcérée, n'aurait pas dû aller, en l'occurrence, du côté des victimes, qui étaient en réalité les vrais coupables et auraient mérité 10 fois pire. Il n'empêche que Plutarque, 3 siècles plus tard, en était encore tout ému et voyait dans la métonomasie, le changement de nom de la ville, un acte injustifiable dans sa vie d'Aratos, 45. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une faute politique. Après un tel épisode, d'autres semblables, Argos, ailleurs, le koinon achaïon perdait en quelque sorte sa virginité. Il ne serait plus jamais, n'en déplaise à Polybe, l'État parfaitement libéral, anti-tyrannique, mis sur pied par le noble Aratos en ses jeunes années. On peut aujourd'hui se faire une idée très précise de ce qu'était le koinon achaïon vers 210, après la mort d'Aratos en 213 et avant l'entrée en scène de Philopémène de Mégalépolis, son brillant continuateur, en 208. Ce qui le permet, c'est une inscription d'Épidaure, connue certes depuis le début du XXe siècle, mais dont la datation n'a été établie qu'en 1985 par l'historien allemand Fritz Schnitzer, qui a montré que cette liste de nomographoi, dont je laisse à M. Rizakis le soin de faire le commentaire institutionnel tout à l'heure au séminaire, était le reflet très exact de l'extension géographique de la Ligue à un moment où celle-ci avait déjà perdu Mégare et Corinthe et pas encore étendu sa domination en Arcadie, mais la Mégalépolis mise à part, qui de fait était bien présente avec 3 députés, 3 nomographoi dans cette liste. Car Schnitzer me semble être parvenu à rendre compte de l'absence, à première vue, surprenante de la ville de Mantinée. Il ne faut pas tenir compte de la date indiquée ici, qui est traditionnelle et erronée. Donc, il essaie d'expliquer l'absence de la ville de Mantinée sous son nom de nouveau de Antigonéa après 223. Et cela par le fait que c'était les Argiens, en fait, qui, vous avez le texte dans votre dossier, qu'il avait obtenu en pleine propriété, et non pas, comme nous disent toutes les éditions de Plutarque dans la vie d'Aratos, les Achéens. Achaïon, dans ce passage, est en fait, on le voit par la paracritique, il faut parfois les regarder, les aparacritiques, on voit qu'on a corrigé de manière arbitraire Argeion des manuscrits en Achaïon, ce qui donne un sens tout de même assez différent. Donc, Mantinée-Antigonéia avait alors cessé d'exister comme cité, elle était en quelque sorte sous domination argienne, et cela explique parfaitement son absence dans la liste d'Épidaure, laquelle, par toutes sortes de recoupements, peut donc être datée aux alentours de 210-207. C'est un tableau que cette inscription complète de l'État achéen au moment même du passage, si vous voulez, entre l'époque d'Aratos et celle de Philopémène. Grand chef d'État et surtout grand capitaine, ce qu'Aratos n'était pas vraiment, Philopémène devait inspirer à Polybe des sentiments de très vive admiration qu'il a su transmettre, on peut dire, à la postérité par le biais de Plutarque dans sa vie de Philopémène, justement, et de Pausanias au livre 8 de la Périégèse. Mais il serait injuste d'oublier d'autres figures, telles l'exact contemporain de Philopémène, que fut Aristainos de Dimée, une ville de l'Achaïe proprement dite, qui accéda trois fois à la stratégie fédérale à partir de l'année 199, après avoir exercé très certainement l'hyparchie si l'on admet son identification avec Aristainetos de Dimée dans un passage de Polybe que vous avez dans votre dossier, une correction qui paraît nécessaire. Polybe reconnaît du reste à ce personnage, donc à Aristainos, un très grand mérite, celui d'avoir sauvé la confédération achéenne, rien moins que cela, en persuadant les Achéens de lâcher le roi Philippe de Macédoine en 198 pour passer dans le camp romain côté du consul Flamininus, à la veille, justement à la veille de la victoire romaine de Cynocéphale. C'est le chapitre 7 du livre 22. Sans pour autant, note Polybe, se rendre coupable de trahison. La très grande notoriété d'Aristainos est attesté, on le voit ici, par un monument public de Delphes, où le koinon achaïon honore ce bienfaiteur dans un sanctuaire panhellénique, certes, mais qui est dominé alors par les Étoliens. Une inscription de Corinthe, restituée avec quasi-certitude, est peut-être plus remarquable encore dans la mesure où elle montre qu'Aristainos prit soin d'honorer personnellement le proconsul vainqueur, Titus Quintus Flamininus, à qui les Achéens devaient précisément de pouvoir faire rentrer la grande ville de Corinthe dans leur État fédéral. Si l'on s'en tient toutefois à la question des rapports entre l'État fédéral et les cités, c'est bien, disons, c'est bien Philopémène qui œuvra le plus activement, non seulement à reconstituer le koinon dans ses frontières d'avant 224, qui est l'année terrible pour les Achéens, mais à l'étendre véritablement, non sans mal, il est vrai, et ni même sans bavure, dirait-on aujourd'hui, à l'ensemble du Péloponnèse. Réalisant ainsi le fameux programme polybien d'union de toutes les cités de la péninsule. Dès le début de sa carrière, le mégablopolitain parvint à s'emparer de la grande cité arcadienne de Tégé, là aussi dans le Péloponnèse du Nord, entre l'Argolide et la Laconie. Et il sut ramener les Mégariens dans le giron achéen. Tandis qu'il fallut attendre, on l'a vu, l'année 197, voire 196, pour récupérer Corinthe. Mais l'action de Philopémène s'exerça surtout après cette date en direction des grands états du Péloponnèse méridional et occidental, qui étaient restés réfractaires à la collaboration avec les Achéens. Deux de ces cités, Mécène et Sparte, au sud, se trouvaient d'ailleurs être les voisines immédiates de Mégalépolis, la patrie de Philopémène. Ça joue un rôle fort important. Quant à la cité d'Élis, dans l'ouest, avec un vaste territoire et qui gérait le grand sanctuaire panhellénique d'Olympie. Elle avait également des frontières communes et avec l'Achaïe et avec l'Arcadie. C'était un point très important. Elle était le lieu, d'ailleurs, constant d'affrontements entre la Ligue achéenne et la Ligue étolienne. Par suite de la perte d'une grande partie de l'œuvre de Polybe, il ne faut pas l'oublier que nous n'avons que des restes de Polybe, surtout pour toute la deuxième partie de l'œuvre, les circonstances de son annexion d'Élis par le koinon achéen sont encore relativement mal connues. Mais il paraît clair que cette ville d'Élis et tout son vaste territoire étaient acquises aux Achéens dès 192-191, par suite des événements dans lesquels je n'entre pas, de l'intervention du roi Antiochos III de Syrie. En tout cas, c'était tout à fait acquis en 190. On est mieux informé sur le sort réservé à la grande et vieille cité de Sparte. Les Lacédémoniens étaient de longue date les ennemis déclarés des Achéens. C'est donc avec une infinie réluctance, on peut dire, qu'ils se résignèrent à entrer dans le koinon après la défaite de leur roi tyran Nabis en 194, même si Philopémène sut convaincre certains d'entre eux, nous dit-on, que la collaboration avec les Achéens était en fait une garantie de liberté et de démocratie. Ce qui n'empêcha pas Sparte de chercher à nouveau à recouvrer son antique indépendance. Et cela, la première occasion venue, d'où un conflit ouvert avec la Confédération, toujours mené par Philopémène. La répression paraît avoir été particulièrement violente, au point que l'affaire fut en 187 portée devant le Sénat de Rome, où l'ambassadeur des Achéens, chose notable, un citoyen d'Élis, qui prouve qu'à ce moment-là, donc, il y avait des Éléens qui occupaient des postes importants, eut du mal, cet ambassadeur, à justifier le traitement infligé aux Lacédémoniens. Ceux-ci n'avaient-ils pas été obligés de raser leurs murailles, plus grave encore, d'abolir tout un pan de, la constitution traditionnelle, celle de Lycurgue, en renonçant à la fameuse éducation spartiate, au profit de l'achéenne, de l'achaïque agogé. C'était évidemment une ingérence difficilement admissible dans les affaires intérieures de la cité, une atteinte majeure à son autonomie municipale. Et d'après Plutarque, qui, sur ce point, ne pouvait pas tomber d'accord avec son héros, son grand héros Philopémène, tandis que Pausanias, lui, passe là-dessus plus rapidement, sans porter de jugement, il semble clair que Philopémène dut faire assez rapidement machine arrière. Mais la manière forte n'en demeura pas moins jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin, la méthode la plus volontiers pratiquée par ce chef militaire, sans que, apparemment, cela inspira la moindre réserve à Polybe. L'affaire de Mécène illustre au mieux cette indulgence de l'historien pour Philopémène. Il est vrai que de son récit de la sécession de Mécène, l'autre grande cité, cette fois à l'ouest, sud-ouest du Péloponnèse, on n'a guère de ce récit que des bribes ou l'écho chez Plutarque. Cette importante cité, avec un vaste territoire, avait été manifestement forcée en 191, avec la bénédiction des Romains, de se soumettre aux Achéens. Mais dès 183, elle décidait de se détacher de ce koinon achaïon, outrageusement dominé, il faut bien le voir, par le clan des mégalopolitains, justement voisins de Mécène. Dont Polybe lui-même, d'ailleurs, qui à ce moment-là a quelques 25 ans. La réaction des Achéens ne se fit pas attendre, et si Philopémène lui-même perdit la vie, après avoir été sauvagement assassiné à Mécène en 183, ce qui peut-être d'ailleurs a été favorable à la cause achéenne, dans la mesure où le personnage était une figure très, très populaire et avait des adeptes, même des partisans même au sein des Mécéniens, cette ville rebelle dut capituler et fut durement traitée. Aujourd'hui, on commence peut-être à deviner pourquoi les mégalopolitains se montrèrent si rigoureux à l'égard de leurs confédérés et voisins. Un monument mis au jour tout récemment, à Mécène même, au cœur de l'Agora, porte en effet un texte très important, une inscription de près de 200 lignes, que nous examinerons peut-être en partie vendredi prochain, disposée sur quatre colonnes, je ne sais pas si l'image va apparaître, dont les deux premières, justement, sont désormais publiées. Il y a quatre colonnes ici, 200 lignes, c'est même exceptionnel. Grâce à la célérité de l'inventeur, notre collègue grec Petros Themelis, il y a quelques semaines, on peut dire. Ce long texte se rapporte à une dispute territoriale qui, manifestement, suivit immédiatement le retour de la ville rebelle dans la cité, dans le giron achéen, pardon. On voit qu'il y a une apokatastasis eistenton achaion sympoliteian, comme dit le document assez explicitement. Il y a alors une très longue procédure judiciaire, complexe, pour fixer les frontières entre Mécène et Mégalépolis, au terme de laquelle les Mécéniens, certes, eurent gain de cause sur quelques points, d'où la mise en évidence de cette affaire par l'inscription, mais où aussi on voit qu'ils, et on sait qu'ils perdirent beaucoup. La cité de Mécène fut en quelque sorte dépecée, privée, mutilée de parties importantes de son territoire dans la direction de Mégalépolis, de territoires qui devinrent justement des cités, des petites cités indépendantes. C'est une pratique qui paraît n'avoir pas été exceptionnelle dans l'histoire achéenne, à l'encontre de cités jugées précisément peu sûres et surtout trop importantes. On en a des exemples qui remontent déjà au IIIe siècle. Par exemple, Argos est privée d'une petite cité, Cléonaï, qui était sous sa domination auparavant. Argos, certes, aura des compensations, je n'entre pas dans le détail. Mais on constate qu'à Lacédémone fut tout à fait, de même manière, privée d'une partie de son territoire. Et en croire plus tard que Mégalépolis elle-même eut à subir un traitement semblable quand Philopémène, par dépit, dit le biographe, contre sa propre cité, fit en sorte que deux anciennes bourgades mégalopolitaines fussent désormais admises en tant que poleis par les Achéens. Mais, quoi qu'en dise l'auteur de la vie de Philopémène, ce réaménagement ne s'est sans doute pas fait au détriment de la grande cité. C'est un réaménagement, disons, plus général. Bref, tout cela montre que les 40 années qui vont de 208 environ à 168 ont bel et bien marqué l'apogée du koinon achaïon sur le plan de l'extension territoriale, du prestige international incontestablement, comme l'attestent aussi, je passe là-dessus rapidement, les frappes monétaires sujettes à discussion sur la chronologie, où l'on voit des monnaies qui portent les mêmes types alors qu'elles sont frappées dans de très nombreuses cités. Vous en avez plusieurs mentionnées ici. C'est un phénomène monétaire très, très intéressant. Et c'est bien aussi ce que Polybe fait plus que suggérer dans son introduction. Mais tout en saluant donc la justesse de ses vues, on éprouve un peu de mal à partager son enthousiasme quand il dépeint ce grand État fédéral, on s'en souvient, comme un modèle d'équilibre, de liberté, d'homonoia, concorde. Cette concorde n'étant peut-être pas le trait le plus frappant des relations entre les cités à cette époque-là. Si l'on revient maintenant, pour mieux conclure, à notre point de départ, à savoir l'opinion exprimée par Adalberto Giovannini sur la forme politique de ce koinon, qui, selon lui, ne se distinguerait pas, au point de vue de son fonctionnement, d'un État unitaire, d'une grande cité, une police. Il me semble que le simple récit des vicissitudes par lesquelles le Koinon est passé de 280, donc sa fondation, à 180 à peu près, interdit absolument d'adhérer à une telle conception, puisque cette histoire ne ressemble en rien à celle d'une police normale. L'extension continue de la Confédération achéenne, le nombre variable de ses membres, les mouvements d'adhésion plus ou moins volontaires, de sécession, les incessants remodelages territoriaux, la diversité des traditions et des institutions locales, tout cela prouve à l'évidence que l'on n'a pas affaire à une cité dont seule la taille serait exceptionnelle, comme le laissait entendre Polybe lui-même, on s'en souvient, en prétendant que l'absence d'une muraille commune était l'unique différence entre le koinon et une police. Et il y a bien sûr les indices positifs qui avaient été réunis depuis longtemps et discutés, notamment par le spécialiste de Polybe, Frank Wolbank, contre la thèse paradoxale sur ce point de Giovannini, dans un article de 1985 repris dans ses Selected Papers de 1985. Il découle en effet de bien des passages de Polybe lui-même que les cités formant la communauté, on peut dire, achéenne, conservaient dans tous les domaines, y compris celui de la politique étrangère, une capacité d'initiative incomparablement plus grande que la très faible autonomie municipale laissée, par exemple, aux dèmes de l'Attique, que l'on songe seulement au refus en 197 de trois cités d'accepter l'alliance romaine. Il est très particulièrement remarquable qu'aient pu exister soit des conventions judiciaires conclues entre deux cités de la Confédération, soit même des traités, ou même toujours des traités, entre la Confédération et les nouveaux membres. On en a un bel exemple connu depuis longtemps, celui du traité entre les Achaïoïs, justement, et les Orchoméniens de... et les Orchoméniens d'Arcadie. Une description fort intéressante dans le détail, je ne veux pas commenter ici. Toute chose inconcevable dans le cadre d'une grande cité, même composite, comme l'était par exemple la cité de Rhodes. Cela dit, il serait à coup sûr erroné et sans profit aucun de tenir poleis et koina pour des deux formes d'État radicalement différentes. En effet, pour ce qui est du fonctionnement des principaux organes politiques, les institutions du koinon achaïon sont comparables, mutatis mutandis, comme on dit, à celles d'une cité. Car, si je crois devoir repousser avec conviction l'assimilation pure et simple qui aboutit à la négation de toute spécificité fédérale dans le monde grec, c'est avec faveur que, comme beaucoup d'autres chercheurs, j'ai accueilli le mémoire, déjà relativement ancien, publié dès 1969, dans la revue Museum Helveticum, où Giovannini a offert une nouvelle interprétation des textes et documents relatifs au fonctionnement des assemblées fédérales achéennes. Question qui avait fait l'objet de beaucoup de travaux, et notamment d'une thèse, d'une seconde thèse d'André Aymard. Cet article a donné immédiatement lieu à un débat intéressant, notamment avec le parfait connaisseur de l'Achaïe et de Polybe, qui était l'historien britannique Wolbank. Mais il n'a malheureusement pas été connu de tous ceux qui eurent ensuite à traiter de ce sujet délicat par une vraie malchance. Il était paru trop tard, 69, pour être utilisé par le traducteur de Polybe en France, Denis Roussel, dont l'ouvrage fut publié en 1970. Or, cela a pour effet qu'en 2003 encore, dans la réédition extrêmement commode qui a été donnée de cet ouvrage chez Gallimard tout récemment, on peut lire une assez longue note sur le problème des assemblées achéennes où l'auteur, après avoir résumé les positions en présence, écrit ceci, page 1068. Polybe ne semble pas avoir pris la peine, en aucun endroit de son histoire, de décrire les institutions achéennes qu'il supposait connues. Nous restons donc dans leur, à leur sujet dans une grande ignorance. Fin de la citation. Par voie de conséquence, le lecteur français, non prévenu, continue à rester dans le flou sur ce point. C'est ce que montre, au demeurant, un article qui n'est pas sans intérêt, sans doute, paru l'an dernier dans le bulletin de l'association Guillaume Budé sous le titre « Polybe et le polytetma de la Confédération achéenne ». On ne fera certes pas grief au jeune auteur, M. Alain Rémy, d'une malencontreuse faute d'impression qui se répète 25 pages durant sur « polytetma », écrit par erreur « polytetma ». On peut légitimement regretter, en revanche, qu'il ait ignoré ou délibérément tu, mais est-ce croyable, le nom d'Adalberto Giovannini, dont il reprend à travers des travaux plus récents la théorie exposée 40 ans plus tôt. Ce que l'historien genevois avait voulu battre en brèche, en effet, c'est précisément l'opinion commune selon laquelle Polybe aurait été non seulement trop discret sur le fonctionnement des institutions achéennes, qui lui était excessivement familière, mais qu'il aurait fait preuve d'une grande désinvolture dans l'emploi des termes techniques servant à désigner les organes délibératifs. Il aurait confondu ecclésia et boulet, utilisé à tort et à travers les termes de synodos et de synclétos pour désigner l'assemblée des Achéens, moins connu l'opposition entre deux types d'assemblées. Bref, Polybe d'ordinaire, si précis, reconnu comme tel, aurait perpétuellement abusé son lecteur en évoquant la tenue des assemblées où étaient prises les décisions politiques majeures du koinon achaïon. Une conclusion aussi paradoxale aurait dû inspirer depuis longtemps les plus grands doutes. Il est vrai que Polybe n'a pas jugé indispensable de dresser un tableau général des institutions achéennes, en tout cas pas dans la première partie qui nous est relativement bien conservée de son œuvre. Mais s'il procède ainsi, ce n'est point par désinvolture, ni même, ce qui serait déjà peut-être plus excusable, parce qu'il aurait supposé connu de ses lecteurs le système spécifique des Achéens, mais tout simplement parce que ce système, l'Achaikon Systema, n'avait en réalité rien de fondamentalement différent de celui de tout autre État démocratiquement constitué, ce fut une cité ou une confédération. Ce que Giovannini a en effet montré, et ce que M. Alain Rémy a cru découvrir après lui, et avec moins d'honnêteté, je le crains, c'est d'abord que la synodos est bien la réunion régulière, catechusa synodos, convoquée 4 fois par an, d'abord dans la capitale d'Aiguillon, puis dans d'autres cités par la suite, mais il arriva qu'on dut convoquer une réunion intermédiaire quand une question importante n'avait pu, pour diverses raisons de forme ou de fond, être traité en réunion régulière. Cette réunion supplémentaire est dite synclétos. Il y a un passage fort important chez Polybe là-dessus à propos de l'année 168. On retrouve ce terme aussi dans une inscription, célèbre inscription d'Oropos, dans l'affaire de 156, avec la convocation synclétos. Il y a donc, en fait, pas à opposer sur le plan des compétences la synodos à la synclétos, car ce ne sont pas des assemblées de nature différente. Mais comment se fait-il alors, on ira par cela, qu'en évoquant ces réunions achéennes, ces synodoi, Polybe puisse tantôt parler de boulet, donc de conseil, et tantôt d'ecclésia ou d'agora, d'assemblée du peuple? Cela a fait le désespoir des modernes, car ne faut-il pas nécessairement en conclure, ou bien que ce brillant auteur n'avait pas une claire notion de ce qui opposait en principe ces deux termes dans le vocabulaire politique grec, ou alors que le système achéen était doté d'un organe délibératif mixte, constitué de députés, disons, âgés de plus de 30 ans, et non de simples citoyens dès l'âge de 20 ans. En réalité, il faut admettre que lors de chaque synodos, qu'elle fût régulière, catechusa, ou extraordinaire, synclétos, la Boulay avait à siéger pour élaborer les projets de décret discutés ensuite à l'Ecclésia. Ainsi s'explique que selon les cas, Polybe puisse s'intéresser tantôt à l'activité du conseil, de la synodos, par exemple quand le roi Philippe V va parler directement aux Achéens en 220, tantôt à l'activité de l'Ecclésia, toutes les fois qu'il s'agissait de la ratification d'une décision par l'organe souverain de la Confédération, l'Ecclésia, comme dans tout État démocratique. Il me paraît dès lors très nécessaire de renoncer définitivement à traduire synodos par assemblée, et encore moins par conseil, évidemment, mais de parler, comme le suggère Giovannini, de session fédérale. Prenons en effet, pour finir, à titre d'exemple, le texte que vous avez sous les yeux, un passage de Polybe, dans le texte ici grec des Koinais Symboulos, puis en français, dans la traduction de Rousset. Traduire ces Thais Koinais Synodos par « pendant la durée des assemblées fédérales », comme le fait Roussel, ça n'est certes pas faux, mais extrêmement équivoque, puisque Polybe mentionne ici le conseil, qui n'est précisément pas l'assemblée. En revanche, si l'on dit simplement « lors des sessions communes hein, » ou « sessions fédérales », tout s'éclaire, car dans un État fédéral, comme la Suisse en particulier, la session fédérale est justement cette période, et il y en a plus d'une par année, comme chez les Achéens, durant laquelle deux organes siègent en alternance dans la ville fédérale, Aegion par exemple, ou ailleurs, pour revenir à la Suisse, le Conseil des États, une sorte de boulet, hein, et le Conseil national, qui tient lieu d'ecclésia, d'assemblée, en présence l'un et l'autre des ministres, des magistrats fédéraux, les sept conseillers. Peut-être fallait-il donc, pour comprendre enfin le fonctionnement du koinon achaïon, et pour rendre justice du même coup à Polybe, qui voyait les choses de l'intérieur, être soi-même à l'intérieur d'un État fédéral moderne. Mais, si je donne raison pleinement à mon compatriote sur ce point, c'est pour ajouter aussitôt que son interprétation des koinai synodoi montre à l'évidence qu'il a tort de persévérer dans son identification de ce koinon à un État unitaire. Car précisément, dans les poleis, il n'y a pas de synodos, pas de session où boulet et ecclésia, en principe, siègent ensemble, où elles doivent siéger ensemble, du fait que leurs membres viennent de cités fort éloignées des quatre coins du Péloponnèse et ne peuvent donc se réunir à tout bout de champ. On voit ainsi que dans le texte programmatique de Polybe, la réserve faite par l'historien à l'assimilation pure et simple du koinon à une polis, soit l'absence d'une même enceinte pour tous les habitants, est en réalité une donnée fondamentale. Cette nécessité de se réunir ailleurs que dans sa propre ville, de changer de centre de délibération, est en fin de compte, me semble-t-il, ce qui fait la spécificité d'un État fédéral. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.